Nous sommes le mercredi 19 août. Voici à la une. Bonjour, bon début de journée, Mathieu Bellumeur au microphone en ce mercredi 19 août. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous. C'est tombé tard hier soir, donc une entente entre le Canada et les États-Unis, si on se fie en tout cas aux propos du président américain qui a publié sur ses réseaux sociaux qu'il laissait une période de 3 jours avant l'imposition de ses tarifs de 50% sur plusieurs produits canadiens parce qu'il y a un accord entre le Canada et les États-Unis. Donc, 3 jours pour compléter les détails de cet accord selon toujours Donald Trump qui, dans sa publication, évoque Keystone XL, cet oléoduc affirmant qu'il pourrait bien renaître de ses cendres, sortir de sa tombe. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les détails de cette entente-là? On n'a pas vraiment plus de détails ce matin pour vous, sauf qu'il y a une période donc de 3 jours de sursis, si on veut. Peut-être un peu de soulagement pour bien des commerçants, des entrepreneurs, mais il y a encore cette incertitude qui plane, j'imagine, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la confirmation et que l'accord n'est pas signé. Donc, ce sera encore à suivre dans les prochaines heures. Ma collègue Catherine Dib sera plus tard avec nous pour nous donner les derniers détails et ce qu'on a pu apprendre de ce qui s'est dit hier dans ces discussions entre le Canada et les États-Unis. Mais on comprend que ce n'est pas tout à fait fini, même si le président américain clame qu'il y a un deal, un accord avec le Canada. Alors, on va revenir sur ce sujet, évidemment, aujourd'hui et ça risque de nous occuper encore dans les prochains jours. Tour de table avec mes collaborateurs à cette heure-ci, Julie-Jasmine Boudreau, aux Actualités culturelles. Bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Lancement de l'information, de la programmation en information de Radio-Canada hier.
Oui, absolument. Il y a cette nouvelle émission. En fait, c'est une série balado animée par Patrice Roy, comme vous ne l'avez jamais vu.
Ah bon?
Il est habillé en jeans de la tête aux pieds et il a du swag. Je dis ça parce qu'on veut vraiment voir ce qu'on reproduit, ce qui se fait dans les balados qui sont très, très, très actuels en ce moment. Mm-hmm. C'est le format de l'heure. Et bon, j'ai écouté une heure en compagnie de son premier invité. J'ai vraiment hâte de vous en parler parce que c'est très rafraîchissant.
Parfait, on y revient dans les prochaines minutes, un peu plus tard à la fin de l'émission. À tantôt, Julie-Jasmine. Prévision de la météo, tiens. Véronique, bonjour d'abord.
Bonjour, Mathieu.
Quel genre de journée aujourd'hui? Encore humide?
Ah, c'est humide, hein? Mm-hmm. Oui, encore humide. Et bon, c'est pas que les températures vont s'élever tant que ça parce que les nuages sont en approche, mm-hmm. du moins sur le sud du Québec. Les précipitations touchent déjà le secteur de l'Outaouais, le sud de l'Ontario. Donc, avec les averses, avec les quelques orages, l'humidité va rester présente aujourd'hui. 21-23 au thermomètre, c'est ce qu'on va anticiper. Les averses s'en viendront un petit peu plus tard ce matin et les risques d'orages, c'est très dispersé en après-midi. Et en fin de journée, on verra des éclaircies. Donc, c'est un front qui passe. Derrière ça, vous allez avoir des impressions moins humides demain et le beau temps reviendra. Donc, sous un ciel variable demain, bien ensoleillé vendredi, ça va perdurer jusqu'à samedi, les conditions intéressantes. Et les températures, 23-25 degrés pour demain, pour vendredi, mais jusqu'à 25-27 quand même, samedi, quand on dit qu'il y a encore de belles journées d'été à venir, ce sera le cas. Donc, pour toutes les régions sud, là, l'ennuagement se fait ce matin, les averses, les orages s'en viennent et en fin de journée, on a les éclaircies. Du côté de l'Abitibi, du Témiscamingue, c'est passé ce front. Alors, on retrouve des conditions variables aujourd'hui avec une vingtaine de degrés, mais on maintient 40% de possibilité d'averses et un petit peu d'instabilité derrière. L'ennuagement se fait ce matin au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Plutôt nuageux, averses, orages dispersés aujourd'hui. Là aussi, température dans la jeune vingtaine, mais l'indice humidex qui sera bien présent. En territoire ontarien, on retrouve des conditions variables sur la portion nord et centre. Au sud, c'est plus actif. Averse, orage, on retrouvera graduellement le soleil cet après-midi. Les températures 25-27 degrés. Humidex au-delà du 30 et le beau temps. Il est dans l'ouest, secteur de Vancouver, Edmonton, Calgary également. 24 à 26 degrés sous un soleil dominant. Un ciel qui va devenir plus variable sur le sud de la Saskatchewan. Ce matin, il pourrait y avoir quelques précipitations. Et du côté de Winnipeg, Manitoba, les régions les plus au sud. C'est plus tard en après-midi que les averses pourraient se dessiner. 24 degrés quand même, les températures estivales dans l'ouest aussi. Alors, un petit moment à passer sous le temps plus gris, perturbé sur le sud, puis on retrouve le beau temps par la suite pour quelques jours.
Merci Véronique.
Bonne journée.
Bonne journée. Les sports avec Olivier Pellerin. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Des tonnes de sable sur le circuit Gilles Villeneuve en raison du volleyball de plage.
J'aurais dû noter la quantité de sable. Je pense que c'est 700 tonnes de sable qui ont été déversées.
l'avais dit hier, bon, 700 tonnes.
Qui ont été déversées sur le circuit Gilles Villeneuve pour ce tournoi, ce Beach Pro Tour qui débarque à Montréal. C'est la crème du volleyball de plage qui sera à Montréal dès aujourd'hui jusqu'à dimanche pour se disputer le titre montréalais. Mm-hmm. Un sport qui gagne en popularité, le volleyball, oui, mais le volleyball de plage davantage. Chez les jeunes, dit-on d'ailleurs, la Fédération québécoise note une forte demande pour le volleyball de plage. Il semble y avoir un intérêt. C'est certainement pas, c'est certainement lié, je devrais dire, plutôt aux performances du duo canadien formé de Brandi Wilkerson et Mélissa Oumana-Paredes qui, lors des derniers Jeux olympiques à Paris, avait décroché la médaille d'argent. Ça avait été les coqueluches de ces Jeux olympiques. On s'était emparé de cette histoire et on avait suivi le parcours de ces Canadiennes. Mais il faudra suivre le parcours aussi cette semaine parce que c'est la troisième édition de ce tournoi à Montréal. Les deux Canadiennes ont remporté les deux premières éditions, donc défendent pour une deuxième fois leur titre à Montréal. Elles sont en confiance. La foule est toujours très bruyante, très électrique à Montréal et ça joue certainement dans le succès qu'a connu ce duo au cours de ses deux premières participations. Puis il faudra en profiter, nous disait Brandi Wilkerson, qui arrive dans un état d'esprit assez similaire que lors des deux dernières présences de ce duo à Montréal. On l'écoute.
Il n'y a pas grand-chose qu'on peut changer. Si ça marche, ça marche, non? Mais bien sûr, on travaille très dur pour toute cette année. Et on est prêt de jouer fort et on a besoin de jouer fort. L'équipe ici sont tellement trop bien. Bon, mais il n'y a pas le support de les Canadiens que nous avons. Alors, je crois que ça nous aide beaucoup. Ouais.
Il faut utiliser tous les avantages mm-hmm. qu'on a et mm-hmm. la foule en sera certainement un au cours de ce week-end. Il y a Marie-Andrée Lessard qui a participé aux Jeux olympiques de Londres en volleyball de plage qui aurait probablement adoré lors de sa carrière, elle, profiter d'un tournoi comme celui-là à la maison avec, comme je le disais, les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs au monde qui débarquent. On l'écoute, elle est ambassadrice de l'événement au cours de la fin de semaine.
C'est tellement un beau cadeau, c'est du bonbon parce que ça fait des années qu'on veut voir le sport grandir puis d'avoir l'opportunité de recevoir un Elite 16 à Montréal, de montrer les meilleurs athlètes au monde, de ce qu'ils sont capables, de montrer le sport que j'adore, que j'ai grandi en pratiquant. C'est vraiment un cadeau. Puis pour le public québécois aussi, pour les jeunes qui vont voir les athlètes jouer aussi, c'est de leur montrer c'est où la barre, c'est quoi le standard auquel il faut aspirer si on veut jouer au niveau international. Je vois juste que du positif.
Et la catégorie du tournoi, c'est Elite 16, c'est ce que vous avez entendu. C'est à peu près les 16 meilleurs duos au monde qui s'affrontent au cours de ce week-end. Donc, c'est pourquoi on parle de la crème de la crème. Donc, ça débute aujourd'hui. Tout ça est disponible d'ailleurs en diffusion sur tout.tv. Donc, Radio-Canada est là pour vous présenter l'événement. Si vous n'avez pas la chance de vous diriger au Parc Jean-Drapeau et au circuit Gilles Villeneuve pour y assister, au moins, vous aurez ça sur vos écrans.
Et j'ai vérifié, je confirme, 700 tonnes de sable
transporté
par plus de 30 camions.
Ça fait du
je voulais juste contre-vérifier pour être sûr.
L'effet d'abord.
C'est pas mal de sable. Félix Auger-Aliassime maintenant au tennis qui poursuit sa route à Cincinnati.
Ouais, lui, il ne s'enlise pas dans le sable. Au contraire, le terrain est bien dur et ça semble bien fonctionner pour Félix Auger-Aliassime qui atteint les huitièmes de finale. Hier, il affrontait l'Argentin Juan Manuel Cerundolo. Victoire en deux manches pour Félix Auger-Aliassime. En deux manches de 7-5, 6-1 et donc il poursuit sa route. Il est deuxième tête de série. Il est attendu dans ce tournoi. Félix qui aimerait probablement décrocher un deuxième titre sur dur en préparation pour les internationaux des États-Unis. D'ailleurs, il aura un Américain dans les pattes aujourd'hui, aux alentours de 21h, peut-être ce soir, contre Francis Tiafoe, qui est 17e tête de série. Les deux se sont déjà affrontés quatre fois. Félix Auger-Aliassime a remporté trois de ses duels, mais le plus récent, c'était à Halle cette année, sur gazon, par contre. Et c'est Francis Tiafoe qui avait arraché cette première victoire aux Québécois. Donc, parcours qui sera à suivre ce soir. Comme je le disais, vers 21h, tout dépend des matchs qui précèdent. Mais donc, Félix qui semble en confiance au tournoi à Cincinnati.
Merci, Olivier.
Un plaisir.
Bonne journée.
Au revoir.
À la une des différents quotidiens ce matin, vous vous doutez bien qu'il est question de cette entente ou de ce sursis. Bon, le président américain parle d'une entente avec le Canada, donne un autre trois jours avant l'imposition de tarifs pour compléter les derniers détails. Évidemment que ça retient l'attention. C'est entre autres la une du Globe and Mail qui nous parle aussi en première page de référendum en évoquant et en revenant sur cette nouvelle d'hier sur le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui va aller de l'avant avec un référendum sur la séparation du Québec, mais une fois que Donald Trump ne sera plus le locataire de la Maison-Blanche. Et il est également question de référendum en Alberta et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui a reconnu que le référendum de la province sur la séparation faisait l'objet de campagnes d'influence étrangères. Il y a eu des chercheurs canadiens qui ont publié cette semaine des données sur une cyberopération russe particulièrement qui se concentre sur ce débat controversé. C'est une opération, nous dit le Globe, qui est connue sous le nom de Pravda Network, connue des gouvernements occidentaux d'ailleurs pour cibler justement des débats politiques sensibles dans le but de semer des divisions, d'attiser également les dissensions en diffusant du contenu faux, du contenu trompeur. La première ministre albertaine qui a déclaré tard lundi qu'elle avait également informé le SCRC, qu'elle avait été informée par le SCRS, et la GRC de tentatives justement d'influencer le référendum du 19 octobre et que c'était préoccupant. Vous avez les détails à lire dans le Globe and Mail de ce matin. La Presse Plus revient aussi sur cet accord ou sur ce sursis de 3 jours avant l'imposition de tarifs de la part de l'administration américaine. On va y revenir dans les prochaines minutes. Mais Mylène Crête nous parle dans la presse d'une pétition qui demande l'expulsion de l'ambassadeur américain de l'ambassadeur des États-Unis au Canada, Pete Hoekstra. Une pétition électronique qui a été signée par près de 250 000 Canadiens, ce qui ajoute bien sûr aux tensions entre les deux pays. Le gouvernement Carney, lui, reste muet à cet effet. Du côté de l'ambassade, on dit avoir pris connaissance de cette pétition sans faire plus de commentaires. Ce serait quand même étonnant qu'une pétition ait raison de l'ambassadeur des États-Unis au Canada. La principale raison pour laquelle on ne peut pas l'expulser, c'est que ça entraînerait immédiatement l'expulsion de l'ambassadeur canadien de Washington. C'est toujours une question de réciprocité, dit Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, qui a été consulté par la presse. En une du Devoir, on revient sur ce séisme en Indonésie. Plus de 40 000 déplacés après le séisme qui a touché l'Indonésie. Samedi, un bilan donc qui a considérablement augmenté. On parle d'un bilan provisoire des victimes de 70. Donc, on revient sur cet élément dans le Devoir. Et on parle également d'éducation. Quand les insultes et le racisme nuisent à la rétention des profs, au Québec, écrit le Devoir, nombre d'enseignants issus de la diversité écopent de l'intolérance des élèves. Des élèves du secondaire, on donne cet exemple, qui ont été suspendus le mois dernier d'un cours de reprise offert par une école privée montréalaise après avoir insulté leur enseignant, en plus d'avoir tenu des propos racistes et dégradants, selon ce qu'a appris le Devoir. C'est une situation qui témoigne des défis que rencontrent plusieurs enseignants racisés au Québec, dont la rétention dans nos écoles est pourtant essentielle. C'est ce que soulève une série d'intervenants. Donc, vous avez des détails, des témoignages en une du Devoir de ce matin. Dans le Journal de Montréal, des chirurgies bariatriques pour adolescents. L'hôpital de Montréal pour enfants, apprend-on, est le premier établissement québécois à faire ce genre d'intervention. On parle de 15 à 30 opérations par année. En mai dernier, l'hôpital de Montréal pour enfants, qui est devenu le premier établissement pédiatrique au Québec, est seulement le deuxième au Canada à mener à l'interne des interventions bariatriques. On parle donc d'une intervention importante qui permet une perte de poids, mais aussi de soigner des maladies liées à l'obésité, comme le diabète de type 2. Il doit y avoir un accompagnement important, peut-on lire dans le Journal de Montréal de ce matin, s'assurer par exemple que l'adolescent a le niveau de maturité requis, un bon environnement familial également, des changements dans, évidemment, ses pratiques nutritionnelles. Vous pourrez lire des détails en une du Journal de Montréal de ce matin. Et puis je termine avec le site de Radio-Canada, mon collègue Gaétan Pouliot qui revient sur cette affaire de sirop d'érable falsifié. Voilà que les chaînes de supermarchés Metro, Sobeys et Loblaws font l'objet d'une demande d'action collective parce que ces chaînes auraient une responsabilité dans l'affaire du sirop d'érable frelaté, selon un cabinet d'avocats. Je vous rappelle qu'en septembre dernier, enquête révélait qu'un important producteur de sirop d'érable de la Montérégie vendait du sirop d'érable coupé avec du sucre de canne. Les détails donc de cette demande d'action collective dans l'article de Gaétan Pouliot sur le site de Radio-Canada ce matin. Donc, Donc, ces tarifs de 50 % devaient entrer à minuit, minuit une précisément, sur tout un éventail de produits canadiens. Finalement, il y a un sursis de 3 jours. Le président américain lui parle d'un accord qui a été conclu entre le Canada et les États-Unis, mais on veut finaliser les derniers détails avant de lever cette menace d'imposition de tarifs. C'est ma collègue Catherine Dib qui est en studio pour faire le point ce matin. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors, que dit-on d'abord du côté d'Ottawa à la suite de ce développement là, au cours de la soirée d'hier?
En fait, on ne mentionne nulle part cet accord imminent, mais le premier ministre Mark Carney a mentionné ce sursis dans une déclaration officielle dans laquelle il évoque des discussions intensives avec les États-Unis au cours des dernières semaines. Voici ce que le professeur en droit international économique de l'Université Laval, Richard Ouellet, saisit de cette période de 3 jours additionnels.
Ben, mon hypothèse, c'est qu'on n'est pas très loin, finalement. On s'est peut-être rapproché d'un accord. Mm-hmm. Ce qui semble diviser les parties, c'est la baisse des tarifs douaniers auxquels les États-Unis concèdent, que les États-Unis concèdent. Est-ce qu'ils passent d'abord pour les tarifs 338, là, ceux qu'ils menacent d'appliquer, est-ce qu'on les a ramenés à zéro? Pour les tarifs qui s'appliquaient déjà, les tarifs qu'on dit 232, qui s'appliquaient déjà à l'acier, à l'aluminium, aux pièces automobiles et en partie au bois, est-ce qu'on a accepté de les descendre suffisamment au goût là, de l'administration canadienne?
Bon, on comprend qu'il y a encore des détails, évidemment, qui vont nous être communiqués éventuellement, que ce sursis de 3 jours. Qu'est-ce qui a quand même été dévoilé au sujet de cet accord provisoire?
Voilà, alors peu sort de ce qui a été convenu, mais Donald Trump évoque l'oléoduc Keystone XL, qui pourrait sortir de sa tombe, dans ses mots. Rappelons que c'est le président Joe Biden qui avait mis la hache en 2021 dans ce projet de pipeline de près de 2000 km qui devait transporter du pétrole entre l'Alberta et le Nebraska, un projet qui avait été pourtant soutenu par Ottawa à l'époque, même sous Justin Trudeau. Le représentant au commerce Jamieson Greer a aussi ajouté sur le réseau social X que cet accord va prévoir un accès complet au marché canadien pour tous les produits américains, des engagements en matière de sécurité économique, l'harmonisation du commerce numérique et aussi de nombreuses dispositions importantes qui continueront de protéger le marché et les travailleurs américains. Ça, c'est dans les mots de Jamieson Greer. De plus, Donald Trump a signé mardi soir une nouvelle proclamation publiée sur le site de la Maison-Blanche dans laquelle il est écrit que le Canada s'est engagé à supprimer les discriminations ou les impositions déraisonnables et inégales visées par les proclamations relatives aux boissons alcoolisées, aux droits de douane sur les produits laitiers et sur les véhicules motorisés.
OK. En tout cas, il y a certainement beaucoup et encore de l'incertitude pour bien des commerçants, des propriétaires de PME, entre autres. Et les négociations, vraiment, ça a été jusqu'à la toute dernière minute avec Washington, justement, pour échapper à ces nouveaux tarifs.
Il y avait d'ailleurs le premier ministre Mark Carney qui s'est entretenu par téléphone avec le président mardi après-midi pour la deuxième fois en 2 jours. Et la discussion aurait été tendue selon des sources. Ottawa se disait prête à riposter si les tarifs se matérialisent. Un changement de ton par rapport aux concessions qui avaient été faites jusque-là, par exemple l'abandon de la taxe sur les services numériques. Et puis bon, il faut dire que l'anxiété au pays avait grimpé au rythme des négociations ces dernières semaines et on craignait une escalade, comme l'explique Richard Ouellet.
Donald Trump représente deux dangers pour l'économie et pour le commerce international. C'est d'abord son attitude à l'égard des tarifs, qui est très, très néfaste. Et la deuxième, c'est l'imprévisibilité. Or, il vient de jouer cette carte-là, là, et il va continuer de la jouer dans les prochains jours. Et ça, c'est pas meilleur pour l'économie. Les gens d'affaires qui ont à prendre des décisions aujourd'hui, demain et le mois prochain, à savoir s'ils investissent ou pas, s'ils produisent au Canada ou pas, quel marché visent-ils, quel client visent-ils, que veulent-ils développer pour leur entreprise?
Enfin, la suspension des tarifs douaniers est en vigueur jusqu'au 22 août 2026, en fait cette année, à minuit moins une heure de l'Est.
Merci beaucoup, Catherine.
Merci.
Bonne journée.
L'Internet a changé notre existence. Fait que si t'avais 17-18 ans, en 2016-17, ben, tu te serais parti une chaîne YouTube.
T'as dit que t'écoutais à 1.5 la vitesse accélérée, mais mes bulletins, ça va plus vite.
Les panels. Je les écoute à 1.5 sur YouTube, le panel politique. Je suis un grand fan.
Il écoute les panels en accéléré. C'est un extrait d'une toute nouvelle série balado, Julie Jasmine, animée par Patrice Roy, qui est disponible à partir de maintenant.
C'est maintenant. Vous allez retrouver ça sans surprise sur YouTube, sur audio aussi, et sur Tout TV, donc pas à la télé traditionnelle, un peu plus tard durant la saison, probablement. Ça s'appelle Hors des ondes. Et aux 2 semaines, on va recevoir un invité dans un mode conversationnel et décontractée. Et là, c'est la rencontre de deux mondes dans ce que vous avez entendu. C'est hyper intéressant. C'est Mounir Kadouri, dit le maire de Laval. C'est un YouTuber, c'est un créateur de contenu. Lui, il est suivi par 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et il fait de l'info, mais quand même proche de l'opinion et aussi dans le divertissement. Et son monde va rencontrer celui de Patrice Roy, journaliste rigoureux, chevronné, biberonné aux normes et pratiques journalistiques. Et ils vont discuter d'objectivité à l'ère des médias numériques. C'est tellement intéressant, c'est tellement du bonbon, cette conversation-là. Un qui s'inquiète de la neutralité et l'autre qui dit « ben moi, je m'en remets à l'intelligence du public ». Alors, je vous laisse deviner lequel et de quel côté. Ensemble, ils vont parler de télé traditionnelle, des jeunes qui n'y sont plus et pourquoi, de souveraineté, parce que le YouTuber est ouvertement souverainiste, mais va quand même couvrir la campagne électorale. Alors, comment tout ça peut teinter finalement son contenu? Bref, ça dure à peu près une heure. Dans les formats habituels de Patrice Roy, c'est souvent des entrevues de 2 à 5 minutes. Alors, ça peut être plus simple peut-être d'être bon en 2 à 5 minutes, mais là, imaginez pendant une heure. Et ça, pendant une heure, c'était plaisant à écouter. Il y aura Chantal Hébert qui va passer à ce micro-là, Florence Lompré, Mike Ward, Raphaël Jacob. Alors voilà, c'est sur YouTube, sur Audio et surtout TV, ça s'appelle Hors des ondes.
Oui, quand on n'a pas le cadre du temps imposé par la télé plus traditionnelle, évidemment, on peut aller plus loin dans la réflexion et la discussion. Aha. Céline Dion à Paris, ça s'en vient, c'est dans un mois et elle fait la une de magazine aujourd'hui.
The Harper's Bazaar. Alors, elle est en une de ce magazine mode. Elle se dit prête à remonter sur scène. Elle dit, ça fait tellement longtemps que je vais offrir au public quelque chose pour leur montrer à quel point ils m'ont manqué. Et là, elle est en mode préparation. 90 minutes de pilates, 3 fois par semaine, des cours de danse. Elle dit, c'est vraiment pas une option de ne pas me produire. Alors, tout ça, elle s'entraîne évidemment pour aller chercher de la souplesse parce qu'on la connaît. On sait qu'elle est atteinte du syndrome de la personne raide. Alors, voilà des nouvelles de Céline Dion.
Et puis, un petit mot en terminant sur Oliver Jones, dernier hommage à partir d'aujourd'hui.
Exactement. Le pianiste jazz d'exception nous a quittés le 22 juillet dernier à 91 ans. Il y a la chapelle ardente aujourd'hui. Ça se passe dans le hall de l'Hôtel de Ville de Montréal. Et demain, il y aura la cérémonie funéraire. C'est dans le quartier Petite-Bourgogne. C'est ouvert au public. C'est en après-midi. Il y aura des écrans géants à l'extérieur.
Merci beaucoup, Gilles Jasmine.
Ça fait plaisir.
Bonne journée. Et sur ces quelques notes du pianiste Oliver Jones, Marie-Michèle Bordois est en studio. Bonjour Marie-Michèle.
Bonjour Mathieu.
À surveiller aujourd'hui Québec qui va avoir son mot à dire concernant les factures d'électricité impayées par certains membres des Premières Nations.
Le gouvernement demande à Hydro-Québec de le consulter avant qu'une décision soit prise pour effacer ou non les dettes. Selon nos sources, la Société d'État estime ces impayés à plus de 250 millions de dollars. Texte complet de Thomas Gerbet à lire sur notre site web ce matin.
Et puis on s'intéresse aussi ce matin à l'agriculture verticale.
Oui, c'est notre correspondant en Asie, Philippe Leblanc, qui nous en dit davantage sur la plus haute ferme verticale du monde. Ici au Canada, le secteur est émergent, mais à Singapour, il y a une ferme géante qui vise à assurer en fait la sécurité alimentaire, le complexe qui mise sur les robots et l'intelligence artificielle. Il faut dire que Singapour importe environ 90 % de sa nourriture, donc la question de la sécurité alimentaire, elle est importante. Reportage à entendre, entre autres, dans nos radiojournaux.
Merci beaucoup, Marie-Michèle.
Bonne journée.
Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous souhaite une très belle journée. À demain.